Bonjour Claude Escolovitch.
Bonjour.
On parle d'une ampoule.
Ampoule qui depuis 120 ans brille sans faillir. Et sa lumière orange veille sur les pompiers de Livermore aux États-Unis. Une webcam est braquée sur elle, mais nos objets de maintenant ne sont pas durables. Et tous les 3 ans, il faut changer la caméra foutue, tandis que la plus que centenaire ampoule tient bon. Et pour nous, l'ampoule brille aussi dans la vie. La vie qui nous parle de lumière quand Noël arrive, la lumière de la foi qui perce les ténèbres, nous sommes dans un grand journal catholique, mais aussi la lumière tenace de l'entreprise Leroy qui depuis 150 ans fabrique des cierges à Boulogne, mais encore la lumière protectrice qui avertit les navires et sur laquelle veillent les ingénieurs des phares et balises dont la technologie préserve une vieille mission. Le phare de la Hèvre illumine à l'ouest du Havre depuis 70 ans. Un enfant, me direz-vous, comparé à l'ampoule de Livermore, qui, fierté, fut fabriquée par un Français émigré aux États-Unis, Monsieur Adolphe Chaillet, dont on ignore les secrets. Mais dans quel bain chimique avait-il trempé son filament de carbone? On dit qu'il avait en tête, non pas la durée, mais la puissance. Il voulait éclairer plus fort, il aurait éclairé plus longtemps. Quelle sagesse, quelle ironie. Et nous voilà plongés dans les hasards de la science et de la foi. À quoi croyons-nous? L'Express, impitoyable, taille en pièces un livre très bien vendu et trop vanté, Dieu, la science, l'épreuve, qui voudrait montrer que le Big Bang, la fin prévisible de l'univers en expansion et les constances physiques qui ont permis l'arrivée de la vie et de la pensée, témoigneraient d'un créateur organisant l'inexplicable. Mais le livre est biaisé, son montage est bancal et le mélange est impur. On ne prouve pas Dieu, dit le philosophe et physicien Étienne Klein, sauf à lui manquer de respect, à le comparer à un sacré bricoleur. Imagine-t-on Dieu parler à un adjoint? Hey, Polo, passe-moi le tournevis, là, les étoiles déconnent et fabriquent pas de carbone, faut que j'augmente d'un chouïa la vitesse de la lumière. Et l'ironie de Klein nous renvoie au mystère et à notre raison. Mais il reste, dit l'Express, le phénomène d'un livre à succès porté par une complaisance médiatique qui ne dit rien sur Dieu, mais beaucoup trop sur nous. L'Obs, lui, a suivi une chamane, Natacha Calestrémé, journaliste scientifique muet thérapeute et autrice de 2 essais best-sellers qui nous invite au bien-être par des exercices spirituels, le nettoyage des cellules et le recouvrement des âmes où se trouve, titre d'un de ses ouvrages, « La clé de votre énergie ». Elle a saisi la France enfermée des confinements, ses lecteurs se pressent à ses conférences, elle expose ses malheurs et ses deuils et écoute ceux des autres, elle remonte la pente, on se confie à elle, l'article à peine teinté de distance, ne juge pas.
On parle aussi d'un militant.
Jean-Marie Muller, au regard doux et à la longue barbe blanche, mort octogénaire samedi dernier, que vous allez voir dans la République du Centre et sur le journal en ligne Reporter. Il venait d'un monde d'espérance, c'était un officier de réserve et professeur de philo qui voulait nous arracher à la guerre. Il avait fondé le mouvement pour une alternative non violente. Il arpentait la planète pour animer le dialogue. Il écrivait des livres dont les titres sonnent cruellement. Désarmer les dieux, l'évangile de la non-violence. Sa stratégie de l'action non violente avait été traduite en polonais sous le communisme, clandestinement, et avait inspiré l'action du syndicat Solidarnosc qui renversa le régime. Dans Paris Match, allez voir un monsieur lumineux, vieux monsieur, Victor Antonovitch Bulgakov, qui dans un appartement de Moscou, où il vit dans un bric-à-brac baroque avec une chatte, un vieil ordinateur, une balalaïka et une mémoire intacte, raconte le goulag auquel il survécut. Arrêté à 18 ans, 1953, la nuit de la mort de Staline, pour avoir rêvé d'une révolution dans la révolution. Quand les policiers l'emmenaient, il avait entendu venant d'une radio un prélude de Rachmaninov. Lisez la suite dans Match et contemplez un homme. Dans l'Obs encore, allez avec le grand reporter Jean-Baptiste Naudet revisiter après 3 décennies Visegrad en Bosnie, où sur un pont historique sur la Drina, les miliciens serbes suppliciaient des musulmans pour assouvir leur nettoyage ethnique et pour venger, disait-il, le mémorial profané d'un écrivain prix Nobel, Ivo Andrić, dont le grand roman supposé historique, Un pont sur la Drina, était devenu le fétiche des ultranationalistes serbes. Et dans le sang, vous lisez le pouvoir des mots quand les brutes s'en emparent.
On parle enfin d'une exploration.
Et dans Marianne, c'est le destin d'un père et d'un fils. En 1949, un jeune homme brave, passé par le scoutisme et par la résistance, décoré à 17 ans pour ses exploits au maquis, il s'appelait Raymond Maufray, débarquait en Guyane avec le rêve fou d'aller à pied en solitaire jusqu'à Belém au Brésil. Il disparut. Ses carnets de voyage furent découverts en juin 1950 dans son dernier bivouac et publiés révélèrent un écrivain. On les ressort aujourd'hui avec des textes de son père Edgar qui était parti en vain à sa recherche. Ce sont 900 pages d'absolu préfacées par l'écrivain d'aventure Sylvain Tesson. Lequel Tesson? Pour le Figaro Magazine, élu parti en Syrie sur les traces des croisés, curieuse piété, tandis que la croix, elle, accompagne les chrétiens de Syrie, survivants aujourd'hui. Dans l'hebdomadaire Le Pays, c'est un grand-père, Jean-Marc, agriculteur à la retraite, qui brandit le portrait de sa petite-fille Sarah, qui avait 10 ans quand ses parents l'ont emmenée au djihad chez Daesh. Elle a 18 ans, orpheline, veuve dans le camp de Roj au Kurdistan. Elle envoie parfois des messages en France où elle regrette la neige, parle de Noël et raconte qu'elle se défend avec des pierres contre les gardes qui viennent battre les prisonnières. Jean-Marc ne sait pas si le président Macron a lu le courrier qu'il lui a fait passer. Dans Le Monde, j'en termine, on découvre un jeune homme de 24 ans, Victor Malzac, qui vient de publier un recueil de poèmes exaltant Lige, qui dit la lourdeur des années adolescentes. Et je hais le vendredi quand les gosses vomissent, boivent, pleurent, font l'amour trop et fument. Et puis cela aussi. Bonjour, c'est moi, j'arrache des mottes d'herbe, lent et mou, sans parler, sans un mot. Mon corps raté, ne tiendra pas le siècle.
Merci. Claude Ascolovitch.